mais elle portait une bague, et lui ayant passé la main sur la nuque, elle resta saisie de voir que sa caresse laissait une trace sanglante. On ne pouvait le toucher sans que la rosée rouge perlât à sa peau. C'était un relâchement des tissus, si aggravé par la dégénérescence, que le moindre froissement déterminait une hémorragie. Tout de suite, le docteur s'inquiéta, lui demanda s'il saignait toujours aussi souvent du nez. Et Charles sut à peine répondre. Dit non d'abord, puis se rappela. Dit qu'il avait beaucoup saigné l'autre jour. Il semblait en effet plus faible. Il retournait à l'enfance, à mesure qu'il avançait en âge, d'une intelligence qui ne s'était jamais éveillée et qui s'obscurcissait. Ce grand garçon de 15 ans ne paraissait pas en avoir 10. Si beau, si petite fille, avec son teint de fleur né à l'ombre. Très attendri, le cœur chagrin, Clotilde, qui l'avait gardé sur ses genoux, le remit sur la banquette, lorsqu'elle s'aperçut qu'il essayait de glisser la main par l'échancrure de son corsage, dans une poussée précoce et instinctive de petit animal vicieux. Aux Tulettes, Pascal décida qu'il conduirait d'abord l'enfant chez l'oncle, et ils gravirent la pente assez rude du chemin. De loin, la petite maison riait comme la veille au grand soleil, avec ses tuiles roses, ses murs jaunes, ses mûriers verts, allongeant leurs branches tordues, couvrant la terrasse d'un épais toit de feuilles. Une paix délicieuse baignait ce coin de solitude, cette retraite de sages, où l'on n'entendait que le bourdonnement des abeilles autour des grandes mauves. « Ah, ce gredin d'oncle !» murmura Pascal en souriant. « Je l'envie !» Mais il était surpris de ne pas l'apercevoir déjà, debout au bord de la terrasse. Et, comme Charles s'était mis à galoper, entraînant Clotilde pour aller voir les lapins, le docteur continua de monter seul. S'étonna, en haut, de ne trouver personne. Les volets étaient clos, la porte du vestibule bâillait, grande ouverte. Il n'y avait là que le loubet jaune sur le seuil, les quatre pattes raidies, le poil hérissé, hurlant d'un gémissement doux et continu. Quand il vit arriver ce visiteur, qu'il reconnut sans doute, il se tut un instant, alla se poser plus loin, puis recommença doucement à gémir. Pascal, envahi d'une crainte, ne put retenir l'appel inquiet qui lui montait aux lèvres. « Macquart ! Macquart ! » Personne ne répondit. La maison gardait un silence de mort avec sa seule porte grande ouverte qui creusait un trou noir. Le chien hurlait toujours. Et il s'impatienta. Il cria plus haut. « Macquart ! Macquart ! » Rien ne bougea. Les abeilles bourdonnaient. La sérénité immense du ciel enveloppait ce coin de solitude. Et il se décida. Peut-être l'oncle dormait-il. Mais, dès qu'il eut poussé à gauche la porte de la cuisine, une odeur affreuse s'en échappa. Une insupportable odeur d'os et de chair tombée sur un brasier. Dans la pièce, il put à peine respirer, étouffé, aveuglé par une sorte d'épaisse vapeur, une nuée stagnante et nauséabonde. Les minces filets de lumière qui filtraient à travers les fentes ne lui permettaient pas de bien voir. Pourtant, il s'était précipité vers la cheminée. Il abandonnait sa première pensée d'un incendie, car il n'y avait pas eu de feu. Tous les meubles autour de lui avaient l'air intacts. Et, ne comprenant pas, se sentant défaillir dans cet air empoisonné, il courut ouvrir les volets violemment. Un flot de lumière entra. Alors, ce que le docteur put enfin constater, l'emplit d'étonnement. Chaque objet se trouvait à sa place. Le verre et la bouteille de 3-6 vide étaient sur la table. Seul, la chaise où l'oncle avait dû s'asseoir portait des traces d'incendie. Les pieds de devant noircis, la paille à demi brûlée. Qu'était devenu l'oncle? Où donc pouvait-il être passé? Et devant la chaise, il n'y avait, sur le carreau, taché d'une mare de graisse, qu'un petit tas de cendres, à côté duquel gisait la pipe, une pipe noire, qui ne s'était pas même cassée en tombant. Tout l'oncle était là, dans cette poignée de cendres fines, et il était aussi dans la nuée rousse qui s'en allait par la fenêtre ouverte, dans la couche de suie qui avait tapissé la cuisine entière, un horrible suinte de chair envolée, enveloppant tout, crasse et infecte sous le doigt. C'était le plus beau cas de combustion spontanée qu'un médecin eût jamais observé. Le docteur en avait bien lu de surprenant dans certains mémoires, entre autres celui de la femme d'un cordonnier, une ivrognesse qui s'était endormie sur sa chaufferette et dont on n'avait retrouvé qu'un pied et une main. Lui-même, jusque-là, s'était méfié, n'avait pu admettre, comme les anciens, qu'un corps imprégné d'alcool dégageât un gaz inconnu, capable de s'enflammer spontanément et de dévorer la chair et les os. Mais il ne niait plus. Il expliquait tout d'ailleurs, en rétablissant les faits. Le coma de l'ivresse, l'insensibilité absolue, la pipe tombée sur les vêtements qui prenaient feu, la chair saturée de boisson qui brûlait et se crevassait, la graisse qui se fondait, dont une partie coulait par terre, dont l'autre activait la combustion. Et tout enfin, les muscles, les organes, les os qui se consumaient dans la flambée du corps entier. Tout l'oncle tenait là, avec ses vêtements de drap bleu, avec la casquette de fourrure qu'il portait d'un bout de l'année à l'autre. Sans doute, dès qu'il s'était mis à brûler, ainsi qu'un feu de joie, il avait dû culbuter en avant, ce qui expliquait comment la chaise se trouvait noircie à peine. Et rien ne restait de lui. Pas un os, pas une dent, pas un ongle. Rien que ce petit tas de poussière grise que le courant d'air de la porte menaçait de balayer. Clotilde, cependant, entra, tandis que Charles restait dehors, intéressé par le hurlement continu du chien. « Ah, mon Dieu, quelle odeur ! » dit-elle. « Qu'y a-t-il ?» Et lorsque Pascal lui eut expliqué l'extraordinaire